Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors cette semaine, nous sommes encore en terre mozartienne, mais un Mozart quelque peu endeuillé, puisque je vais évoquer deux de ses plus fidèles serviteurs qui sont morts, figurez-vous, à 24 heures d'intervalle. Je pense au réalisateur tchèque Miloš Forman et au chef d'orchestre Jean-Claude Malgoire. Oui, ils sont morts respectivement le 13 avril et le 14 avril 2018. Alors Miloš Forman, on le connaît bien sûr pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, un film de 1975, pour le film musical Air en 79, et surtout pour son Amadeus qui, en 1984, va installer dans le grand public une image de Mozart tout à fait nouvelle, un Mozart rigolard, un Mozart bien vivant, un Mozart quelque peu hystérique, il faut bien le dire. Et dans le film, il y a une scène qui est particulièrement forte, c'est celle où Mozart, malade sur son lit de mort, en crachant ses poumons, essaye de terminer son requiem. Et l'énigme est posée. Car aujourd'hui, quand les gens me disent « j'adore le requiem de Mozart », j'ai toujours envie de leur répondre « bah oui, mais tu aimes quoi exactement dans le requiem de Mozart ?» Parce que si c'est le début, ça va, après, ça n'est plus de Mozart. En effet, après la mort de Mozart, Constance, sa veuve, a d'abord confié à Joseph Hébler le soin de terminer le requiem. Joseph Hébler, il y a un petit peu travaillé, notamment sur l'orchestration. Et puis finalement, il a jeté l'éponge. Donc, Constance a demandé à un second élève, Zusmayer. Et ce Zusmayer a fait le boulot, si je puis dire, jusqu'à la fin, encore qu'à la fin, il n'avait plus trop d'inspiration, donc il a repris le début du requiem en changeant les paroles. Et alors, pourquoi je vous parle particulièrement de cette histoire de requiem? Mais parce que ça fait le lien avec la deuxième personnalité à qui je veux rendre hommage aujourd'hui, Jean-Claude Malgoire, donc qui nous a quittés il y a peu de temps, je vous dis, à un jour d'intervalle de la mort de Miloš Forman. Et ce Jean-Claude Malgoire était un mozartien comme il en a peu existé. Il a notamment enregistré comme chef d'orchestre une trilogie d'opéra avec Don Juan, Les Noces de Figaro et Così fan tutte, qui sont tout à fait extraordinaires, qui sont encore disponibles en disque, que je vous recommande. Et donc, Jean-Claude Malgoire, à un moment donné, se met en tête d'enregistrer le requiem de Mozart, mais il trouve une nouvelle fin, une fin alternative. Et là, il faut faire entrer en scène un quatrième compositeur, après Mozart, Hébler et Zusmayer. Ce compositeur, c'est Sigismund Neukomm. Alors peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce Neukomm, c'est un très bon compositeur autrichien. Et alors figurez-vous que ce Sigismund Neukomm a eu l'idée de terminer à sa manière, le requiem de Mozart, et ça se passe au Brésil. Incroyable, en 1819, il compose une prière que n'avait pas composé Mozart, le Liberame. Vous allez voir, c'est quand même une très belle pièce, avec un début magnifique, saisissant. Une petite étrangeté, c'est qu'après 3 minutes de musique de Neukomm, tout d'un coup, Neukomm s'est dit « faut quand même que je mette un vrai bout de Mozart ». Donc on a le début du Dies Irae du requiem, hein, vous savez, « Dies Irae ». Dies illa. Puis alors après 1 minute de Dies Irae, on écoute un peu du début de l'introduction, vous savez, l'introduction douce et mystérieuse qu'on appelle l'introit. Et encore 1 minute après, Sigismund Neukomm reprend la parole, si je puis dire, et termine dans le même esprit qu'au tout début son Liberame. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à l'écouter, ce fameux Liberame final du requiem de Mozart, donc un Liberame signé Sigismund Neukomm. Et bien sûr, c'est interprété par la Grande Écurie et la Chambre du Roi sous la direction de Jean-Claude Malgoire.
Yeah.
C'était donc le Liberame du compositeur autrichien Sigismund Neukomm, un Liberame destiné à terminer le Requiem de Mozart, un Liberame composé au Brésil en 1819. Et j'espère que vous avez aimé autant que moi cette pièce flamboyante, et cette pièce qui évidemment pose la question toujours de savoir comment est-ce qu'on va terminer le Requiem de Mozart. Alors si on veut être précis, le manuscrit du Requiem de Mozart s'arrête très exactement sur la prière du Lacrimosa, qui évoque le jour des larmes. À partir de la 9e mesure, ça n'est plus du Mozart. Enfin, ça n'est plus la plume de Mozart. Parce qu'après, on peut se demander si Süssmayr a tout inventé, dans la continuité de ses 8 premières mesures, ou s'il avait bénéficié de quelques conseils oraux de la part de Mozart, qui aurait pu, sur son lit de mort, lui chuchoter 2-3 conseils. Il paraît même qu'il y avait quelques feuilles de papier à musique que Constance, la veuve de Mozart, aurait remis à Süssmayr. Mais ces feuilles de papier à musique, on ne sait pas si elles comprenaient des fragments qui auraient pu aider Süssmayr à terminer le requiem de son professeur, ou alors si c'était peut-être de la musique qui n'avait rien à voir. Comme Süssmayr n'a rien photocopié, on est obligé de supposer. Enfin, en tout cas, ça pose toujours cette question de la fin du requiem de Mozart, et j'avais envie de vous proposer quelque chose d'encore un peu plus iconoclaste, une version jazz de ce fameux Lacrimosa. Puisqu'il est inachevé, chacun a le droit de s'en saisir et de le terminer comme il veut. C'est ce qu'a fait le magnifique musicien de jazz Antoine Hervé. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine Hervé, un des plus grands musiciens de jazz français, à la fois compositeur, pianiste. Et alors dans son album Mozart la nuit, un album qui est paru en 2006, il a eu l'idée, dans une pièce intitulée Amadeus Blues, de tresser d'une manière merveilleusement fluide le chœur, donc le chœur qui chante bien sûr l'original de Mozart, et une musique de jazz qu'il établit en compagnie des frères Moutin, François Moutin à la contrebasse, Louis Moutin à la batterie, du trompettiste de jazz Marcus Stockhausen, oui oui, grand trompettiste de jazz, le fils du célèbre compositeur, et puis bien sûr Antoine Hervé au piano. Ils se servent surtout du début du Lacrimosa, ça me semble logique, hein, c'est la partie en gros entièrement écrite par Mozart, et vous allez voir, cela change complètement l'ambiance, la réception qu'on peut avoir de ce Lacrimosa. Donc Amadeus Blues, un extrait de l'album Mozart la nuit d'Antoine Hervé, à partir du fragment inachevé du Lacrimosa du Requiem de Mozart. Thank you. Nous écoutions Amadeus Blues, la première plage de l'album Mozart la nuit d'Antoine Hervé, une magnifique musique mélangeant le jazz et le classique, puisque vous avez entendu une manière très personnelle qu'a Antoine Hervé de nous proposer l'achèvement de ce fragment inachevé du Lacrymosa, du Requiem de Mozart. Alors après la mort de Jean-Claude Malgoire et de Milos Forman, moi j'ai écrit à Mozart pour lui présenter mes condoléances bien sûr, et aussi pour lui demander s'il pouvait m'envoyer une playlist de musique consolatrice. Et dans la playlist qu'il m'a envoyée figure notamment un extrait de la Flûte enchantée. Vous savez, c'est l'extrait dans lequel la fille de la reine de la nuit, Pamina, pense que le prince égyptien Tamino, son chéri, ne l'aime plus, car il garde le silence face à elle. En fait, elle se trompe, il l'aime encore, bien sûr. Simplement, c'est une épreuve initiatique. Il doit, pendant 24 heures, garder un silence absolu. Il ne doit pas prononcer une parole. Seulement, elle n'est pas au courant de cette histoire, donc elle ne comprend plus pourquoi il ne veut plus lui parler. Et du coup, elle s'imagine qu'il ne l'aime plus et elle déclare « La joie de l'amour s'est à jamais évanouie. Regarde, Tamino, c'est larmes qui coulent pour toi. Si tu n'y es pas sensible, alors je trouverai le repos dans la mort. » Oui, alors ça, on a envie de lui dire, écoute, même quand on connaît un chagrin d'amour, ce n'est pas une raison pour songer au suicide. Mais en fait, on n'a même pas le temps de lui dire, parce que l'air commence, le fameux air A, Richefuls, un des plus beaux airs de la Flûte enchantée. Et là, tout de suite, on est captivé, on est suspendu aux lèvres de la soprano Sandrine Pio. Vous allez voir une voix d'une telle pureté, un véritable fil tendu au-dessus de l'accompagnement de l'orchestre. Plom, tom, tom. Tom Tom, qui pour moi incarne en quelque sorte le cœur battant et endolori de Pamina. La voix bouleversante de la soprano Sandrine Piau qui interprétait le célèbre air Heinrich Fuchs, un extrait de la flûte enchantée, et elle était accompagnée par l'orchestre baroque de Fribourg sous la direction de Gottfried von der Goltz. Alors après une musique aussi triste, aussi endolorie, il faut qu'on se retape un peu, il faut qu'on se câline avec du mode majeur. Et j'ai pensé, toujours au sein de cette playlist envoyée par Wolfgang lui-même, j'ai pensé à une rareté. Un adagio en quintette, un adagio pour deux clarinettes et trois cordes bassets. Les cordes bassets, c'est en quelque sorte des clarinettes alto. Et cet ensemble de cinq clarinettes est très homogène et cela donne une pièce incroyable, d'une grande délicatesse harmonique, alternant de subtiles dissonances et des enchaînements d'accords apaisants et veloutés.
Thank you.
Quelle musique tendre, quelle musique consolatrice, quelle musique réparatrice même. C'était l'adagio pour deux clarinettes et trois cordes basset, interprété par les Flamants Noirs. Mais du majeur, je vous propose maintenant de retourner en mineur avec une rareté, le Kyrie en ré mineur. Pour moi, l'une des plus belles pièces de musique religieuse qu'ait jamais composée Mozart. Et pourtant, ça n'est pas très connu. Pourquoi ça n'est pas très connu? Mais parce qu'on connaît surtout le Kyrie en ré mineur, extrait de son Requiem. Vous savez, Kyrie Elei. Or, juste avant d'écrire ce dernier Kyrie en ré mineur, Mozart avait écrit un autre Kyrie en ré mineur qu'on appelle parfois le Kyrie de Munich. Une pièce magnifique, théâtrale, intense, voire grandiose, pour chœur et orchestre, que je vous propose d'écouter maintenant dans une très belle interprétation, celle du London Symphony Orchestra sous la direction de Sir Colin Davis.
Thank you.
l'intensité flamboyante du Kyrie en ré mineur de Mozart, donc son avant-dernier Kyrie, une pièce extraordinaire pour chœur et orchestre, une pièce très peu connue et pourtant, vraiment, je vous l'assure, c'est l'une de ses plus belles compositions dans le domaine de la musique religieuse. Et c'était donc le London Symphony Orchestra sous la direction de Sir Colin Davis. Alors en écoutant cette pièce, je me suis dit qu'au fond, chacun d'entre nous pouvait avoir une attitude différente face à la mort. Alors on peut être dans la résignation, l'acceptation, la révolte, l'incompréhension, on peut même avoir tous ces sentiments successivement, mais il me semble qu'après une pièce comme celle que nous venons d'entendre, qui est presque une pièce à la douleur théâtrale, pour orchestre et chœur, il serait bien d'avoir quelque chose de plus intime, de plus doux, de plus personnel. Et j'ai pensé à une mélodie qui s'intitule « Das Lied der Trennung ». C'est une mélodie que Mozart compose alors qu'il a l'âge de 31 ans, 1787, c'est l'année de Don Juan, je crois. Et donc « Das Lied der Trennung », ça veut dire le chant de la séparation, puisqu'en substance, le texte nous dit « Lorsque deux amoureux se séparent, les anges du paradis pleurent. »
Ich fort an dem
J'ai presque honte de reprendre la parole après une telle intensité émotionnelle, la voix de la soprano allemande Rita Streich, qui a interprété pour nous le chant de la séparation d'Das Lied der Trennung, donc une mélodie écrite par Mozart à l'âge de 31 ans. Et je vous propose de terminer notre émission toujours dans le mode mineur, mais côté musique de chambre cette fois-ci, avec le second mouvement de la sonate pour violon et piano en mi mineur. Alors si on va du côté des sonates pour violon et piano, il n'y en a qu'une qui soit justement dans le mode mineur, et elle a été écrite par Mozart à l'âge de 22 ans. Et son second mouvement est un menuet, mais comment dire, un menuet triste. Après tout, il y a des valses tristes, pourquoi il n'y aurait pas des menuets tristes? On a l'impression, dans ce menuet, que Mozart nous livre en quelque sorte un fragment d'intimité. Il était triste, il était mélancolique ce jour-là. Alors, il y a plusieurs types d'explications. Ça peut être lié à la mort de sa mère, ça peut être lié à la défaveur qu'il aurait eu un moment pour certains concerts lors de son séjour parisien, parce que, j'ai oublié de vous le dire, c'est une sonate qui est écrite lors d'un de ses séjours à Paris. Enfin, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est beau, c'est la musique que vous allez entendre maintenant. Et j'ai choisi comme interprète un petit peu la version de référence. Enfin, moi, c'est avec ça que j'ai découvert, quand j'étais petit, les sonates de Mozart pour violon et piano, à savoir en duo le violoniste Arthur Grumio et la pianiste Clara Askill.
Thank you.
Écoutions l'enregistrement historique d'Arthur Grumio au violon et de Clara Askill au piano. C'était un extrait de la sonate pour violon et piano en mi mineur de Mozart. Toute l'émission était donc consacrée à Mozart. Pour cet hommage à deux grands artistes mozartiens, le réalisateur tchèque Miloš Forman et le chef d'orchestre et oboïste Jean-Claude Malgoire. Voilà, j'espère que Jean-Claude comme Miloš et vous, bien sûr, chers auditeurs de La Preuve par Z, vous aurez apprécié toutes ces belles musiques, toutes ces raretés mozartiennes. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Digel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Segre. Chef opérateur du son, Philippe Thibault. À la semaine prochaine.